on a constaté que les pays africains faisaient face à un certain nombre de défis. Et on a développé des outils pour bien analyser tout ça. Et on pense qu'on comprend mieux ces défis-là. On comprend les causes et les implications et tout ça. Mais ça ne se traduit pas à quelque chose de concret pour les populations. Donc on a dit, il faut qu'on aille au-delà de l'analyse et faire des actions. Et c'est ça la résilience en fait. C'est donner, comme je l'ai dit chaque fois, donner aux populations les moyens de se prendre en charge. En d'autres termes, donner aux populations les moyens de se passer de l'aide publique au développement, de se passer des institutions telles que la BAD. Le jour où on aura vraiment bâti la résilience, on pourra fermer la porte de la BAD.
Ils auront toujours besoin d'un accompagnement.
Oui, mais l'accompagnement d'un tout autre ordre. C'est-à-dire que l'accompagnement se fera dans, par exemple, les aider à structurer les investissements qu'ils veulent faire, les aider à mieux cibler ou à mettre en œuvre les opérations de manière beaucoup plus rapide. Mais on ne va pas se retrouver dans une situation où ces pays-là sont continuellement en train de tendre la main. C'est ça le gros débat aujourd'hui dans le monde du développement. C'est pas et les populations de l'autre côté qui donnent commencent à être un peu fatiguées quand même. Jusqu'à quand on va donner? Si vous étiez européen ou quoi, la première question que vous posez, oui, il y a la misère peut-être en Afrique, il y a des besoins, mais c'est jusqu'à quand? Il faut qu'on trouve des solutions pour renverser cette tendance. Oui. Et c'est pourquoi la résilience.
Et apprendre les gens à pêcher au lieu de leur donner du poisson.
Oui, oui, oui. Bon, surtout quand il y a de l'eau. Hein. On ne va pas vous apprendre ou s'aider à pêcher. C'est un peu compliqué. Mais ce que je disais à la première plénière, c'était que c'est quand même paradoxal que nous soyons assis sur des ressources incroyables. Ok. Et que la première chose qu'un jeune a un diplôme, il veut partir. Vous avez suivi le récit de cette femme-là, n'est-ce pas? Qui a eu toutes les misères, qui a payé 2 millions de francs CFA, qui a perdu son argent, qui s'est fait tabasser, qui a eu des violations physiques, et qui a été repêchée par l'OIM, ramenée dans son pays, on lui donne un petit moyen, elle commence à s'en sortir, et c'est quoi son rêve? Repartir.
Elle veut toujours repartir. C'est incroyable.
Non, ça c'est dramatique. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, et moi je résume ça en disant, il faut qu'on donne aux populations l'espoir que vivre ici, c'est possible. On n'est pas obligé de partir. Ok? Mais cet espoir-là, ça ne remplit pas le ventre. C'est-à-dire, cet espoir doit se traduire en des actions concrètes. D'où cette notion de résilience. Il faut qu'on voit que constitue le lot d'opérations, de financement, d'activités d'accompagnement qu'une institution telle que la Banque africaine de développement et d'autres d'ailleurs partenaires peuvent faire concrètement sur le terrain. Ce n'est plus le moment de venir parler migration, c'est important, c'est pas ça, on sait, on a les données. En 1998-99, nous on a écrit un livre, Brain Drain or Brain Gain, c'est-à-dire gain de cerveau ou perte de cerveau, la migration africaine. Ok. Rien n'a changé. Si on reprenait le débat aujourd'hui, on va retomber sur les mêmes conclusions, n'est-ce pas? Donc, maintenant, il faut passer à l'action. Et d'où le besoin de bâtir la résilience.
Oui, on parle de la résilience, effectivement, parce qu'il y a de la fragilité,
oui, oui, oui.
N'est-ce pas? Et qu'on peut situer à plusieurs niveaux, au niveau des pouvoirs politiques, les décideurs, à tous les niveaux.
Oui.
Où est-ce que faut-il commencer pour construire une résilience efficace?
Bon, écoutez, les besoins de l'Afrique sont tellement énormes que quand on parle de résilience, on met ça à un tel niveau que les populations ou certains acteurs se disent « Mais est-ce qu'on peut y arriver ?» Alors qu'il faut commencer à faire les choses très simples, par exemple. Nous, ici à la Banque africaine de développement, au moment où tout le monde, toutes les institutions de financement ne voulaient pas financer l'enseignement supérieur, nous avons développé une stratégie en 2007 qui nous a permis de financer le Kigali Institute. On a fait KIS 1, KIS 2, KIS 3. c'est nous qui avons amené Carnegie Mellon à Kigali. Mais pourquoi? Parce que c'est derrière la volonté d'un leader qui a dit, nous, on veut faire du Rwanda un centre d'excellence en sciences et en technologie. Parce que c'est autour de la science et de la technologie qu'on veut bâtir l'émergence du Rwanda. Vous voyez? Et pour la petite histoire, la Banque africaine de développement avait fait un don de 20 millions de dollars au Rwanda pour lancer une campagne anti-sida, de lutte contre le sida. Le Rwanda a dit, on ne veut pas de l'argent pour faire le programme de lutte contre le sida. Ce n'est pas parce que ce n'est pas important, mais ça, nous allons régler nous-mêmes. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez garder votre argent. Donnez-moi l'exemple d'un pays africain qui va avoir 20 millions qu'on lui donne, de dollars, et qui va dire, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut faire science et technologie, ou nous, on veut faire autre chose. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez garder votre argent. C'est ça. Donc, en fait, l'action qu'on fait doit s'appuyer sur une volonté politique réelle et forte.
Et des priorités.
Des priorités, un ciblage, une vision, hein, de dire on veut bâtir ce pays-là. Et je me rappelle, moi, j'avais eu le privilège de rencontrer avec beaucoup d'autres collègues, hein, le président Kagame, qui disait que lui, il veut faire du Rwanda une Malaisie. Il dit le modèle de Malaisie peut être transposé, ainsi de suite. Bon, Malaisie, ça peut être n'importe quel autre pays, mais on peut quand même construire ce pays-là. Donc quand on voit le Rwanda de 1994 et qu'on voit le Rwanda de 2019, quand il y a des choses à dire.
Absolument, il y a des choses à dire. Monsieur Tapsoba, on insiste beaucoup sur la résilience et on sait qu'elle fait partie des valeurs africaines.
Oui.
De nature, la population africaine, elle est résiliente.
Oui.
Pourquoi nous avons perdu cette valeur?
Non, écoutez, je ne sais pas si on l'a perdue. Je pense que déjà dans le discours, je parlais avec un de vos confrères d'ailleurs, je disais qu'on est trop attaché à ce qui ne marche pas. D'accord? Et on fait très peu attention à ce qui marche. Parce qu'il y a des choses qui marchent en Afrique. Mais ces choses-là, malheureusement, n'attirent pas l'attention des gens. Hein. Et je disais justement que dans certains pays, aujourd'hui, quand on parle d'élections, et justement hier, il y a quelqu'un qui a dit en plénière qu'on vit dans une Afrique où les élections font peur.